Dans ce nouvel épisode des Aventuriers Engagés, nous recevons Mathieu Witbot, ce conférencier, éco-aventurier, nageur et co-fondeur de Swim for Change, ce sportif de haut niveau qui va vous raconter ses défis les plus fous et son rapport à l'écologie. Il va aussi vous raconter dans cet épisode son histoire et son nouveau projet, alors bonne écoute.
Alors bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans et je suis éco-aventurier, donc ça consiste en fait à faire des aventures un peu hors normes pour mettre en avant en fait un changement de comportement au profit de la préservation de notre environnement. De base, en fait, mes parents, moi, ils étaient expatriés, donc on a grandi pas mal à l'étranger, assez proche de la nature. Et en même temps, c'est pas vraiment ça qui m'a sensibilisé. Je pense que c'est à l'âge d'à peu près 17 ans que je suis tombé sur un livre qui s'appelle Passeurs d'espoir. Et c'est l'histoire d'une famille qui fait un tour du monde pour aller rencontrer des entrepreneurs sociaux. Et là, je me souviens, j'étais étudiant. Ça m'a vraiment bluffé comme livre parce que je me suis dit que tu pouvais avoir vraiment la volonté d'exceller dans quelque chose, mais à la fois le faire au service de quelque chose qui a du sens pour toi. Donc, en lisant ces livres, je me suis clairement dit, ouais, mais moi, je rêverais d'être entrepreneur social, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en même temps, bah, j'y connaissais vraiment rien, donc j'ai fait mes études et après, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux partout dans le monde. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience à la fois de l'énergie qu'ont ces entrepreneurs, mais aussi de la passion qui les porte à faire des projets extraordinaires. Ce stage, mon but, c'était d'aller chercher donc ils ont un réseau d'entrepreneurs sociaux partout dans le monde, et puis ils ont un réseau d'enseignants aussi. Et donc mon but, ça a été de faire une sorte de tour de France pour aller voir les professeurs les plus inspirants dans leur façon de transmettre des compétences qui vont derrière être utiles pour les futurs adultes de demain, dans un monde qui n'arrête pas de changer, avec des contextes notamment environnementaux et sociaux qui sont particuliers. Donc, je faisais un appel aux professeurs inspirants, que ce soit dans le privé, dans le public. J'allais les voir, j'allais poser des questions, j'allais dans les écoles et j'allais finalement sélectionner quelques-uns, une petite poignée, pour qu'ils puissent rejoindre le réseau des Changemaker Schools. Et c'était vraiment une expérience qui, moi, m'a beaucoup nourri parce que je me suis rendu compte aussi à la fois de certaines personnes qui sont un peu plus connues dont on entend parler et à la fois d'autres qui sont vraiment au fin fond de la France et qui, pourtant, dans leur pédagogie, même dans un système public, arrivent à essayer de transmettre tout en gardant vraiment leur mission principale qui est d'accompagner l'enfant à grandir et à se préparer pour le monde de demain. On a préparé avec mon cousin un tour du monde en vélo pour aller à la rencontre des solutions face aux déchets plastiques. Donc là, on a préparé ce défi pendant à peu près un an. Donc c'était surtout nos soirées, nos week-ends. Moi, c'était en parallèle de mon stage aussi. Et ensuite, on est parti en 2017 pour un an pour pédaler à peu près 18 000 km dans 17 pays. Et d'aller en fait à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont trouvé une solution de recycler, d'éliminer, de réduire le plastique à usage unique. Et on est rentré du coup fin 2018. Bah, déjà, c'est une prise de conscience qui s'est fait progressivement. Parce que même en 2017, je n'avais pas encore vraiment conscience de l'impact de l'avion comme je l'ai aujourd'hui. Donc, dans les compromis que je peux avoir dans mon quotidien, j'ai un peu mon passé d'expatrié qui me pose question en me disant bah, j'ai grandi dans beaucoup de pays, à faire énormément de voyages, j'ai eu cette chance extraordinaire. Et donc, j'ose pas du tout donner des leçons aujourd'hui parce que je pense que je suis très mal placé pour le faire. Par contre, je trouve que ce cheminement m'a amené à certaines réflexions sans être pour moi, dans un certain extrême, de tout rejeter, mais en même temps, en posant des questions de fond. Et j'ai envie de donner un exemple concret, mais sur le défi Titicaca, quand on m'a proposé, quand Théo Curin, l'athlète paralympique, m'a proposé de traverser le lac Titicaca à la nage, ma première réaction, c'était de me dire, mais mince, comment je vais pouvoir faire pour y aller sans avion? Et concrètement, j'ai pas trouvé la solution. C'était trop éloigné, trop compliqué. Donc, ou j'abandonnais le projet, mais ça c'était vraiment au tout début, ou je travaillais pour me dire, voilà, je m'autorise une fois en 3, 4 ans de prendre l'avion, et c'est pour un projet que j'ai préparé pendant 2 ans, pour un impact sur lequel j'aurais travaillé. Donc, en l'occurrence, la traversée était un peu particulière parce que c'était un défi physique hors norme. C'était quand même 110 km de nage, à tirer un radeau de 500 kilos dans une eau à 12 degrés, avec donc Théo Curin et Malia Metella là. Et à côté de ça, l'opportunité de travailler avec une association locale pour essayer de réduire la pollution du lac. Et donc en pesant le pour et le contre, je me suis dit, mais en fait, personnellement, je sais très bien que je n'aiderai pas ces populations si je ne fais pas ce projet. Donc je me suis, on va dire, autorisé ce voyage. Parce que pour moi, il répondait aussi à une quête de sens et d'impact. Mais aujourd'hui, dans plein de petites décisions, on va retrouver ce genre de contradictions. Et je trouve qu'elles sont saines et que chacun a ses réponses à son stade aussi. Même si il faut tous qu'on évolue plus rapidement aussi dans nos prises de conscience. La différence pour moi entre l'empreinte climat et l'empreinte CO2 et ce qu'on appelle la climate shadow. Donc, si tu prends un déplacement, mais dans le but d'avoir un impact, ce n'est pas du tout la même chose que si tu prends un déplacement pour partir une semaine ou un week-end, faire un truc en vacances. Et pour moi, c'est aussi une distinction fondamentale en se disant, c'est un article que j'avais lu qui disait, bah oui, mais le scientifique qui prend l'avion 50 fois dans l'année, mais pour faire des mesures scientifiques, finalement, il aura un impact personnel beaucoup plus important qu'un banquier qui reste chez lui et qui va en vacances de temps en temps en prenant l'avion. Mais pourtant, l'impact global sera largement meilleur pour le scientifique. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'en fait, c'est bien de questionner notre impact individuel, mais si on garde en tête un impact plus global qu'on peut avoir, il faut aussi prendre des décisions qui nous amènent à, entre guillemets, à être constructif collectivement dans notre approche face au réchauffement climatique. Et en l'occurrence, pour moi, le fait de travailler pendant plusieurs mois avec cette association, le fait d'aboutir sur un projet concret, tu vois, ça m'a quand même beaucoup rassuré dans ce déplacement qui était pour le coup ponctuel et exceptionnel. Pour la Water Family, peut-être parler plus du projet autour de, je trouve, autour des mégots, parce qu'il est aussi parlant. Je fais le tour du monde en vélo et je rentre en 2018. Et en rentrant dans l'aéroport, pour le coup, là, on a pris l'avion aussi à l'époque, je reçois un texto, enfin un email de l'association qui organise les traversées à la nage de Gibraltar. Et ils me disent, Mathieu, il y a 2 ans, tu as demandé si tu pouvais traverser Gibraltar. C'est à présent le moment. Tu peux choisir ton créneau dans 6 mois. Dis-nous très vite pour qu'on bloque la date. Et j'avais complètement oublié que j'avais ce défi en tête de traverser le détroit de Gibraltar. Et donc, je regarde autour de moi, je demande à mes copains s'ils veulent le faire, personne ne me dit oui. Je demande à ma copine qui me dit évidemment que je suis partante. Donc, c'est comme ça qu'en 2019, on traverse le détroit de Gibraltar. Il y a mon petit frère aussi qui se rajoute dans l'aventure. Et en rentrant de ce défi un peu fou, donc une nage de 17 km entre deux océans, deux continents, en rentrant, je me souviens très bien, physiquement, on était encore frais et on avait tellement envie de continuer à nager qu'on s'est dit, mais quel va être notre prochain projet? Et donc, c'est un peu la question qui nous est restée pendant plusieurs mois en 2019, jusqu'au jour où un moment, je vais au boulot en marchant à Paris et autour de la place de Clichy, je m'amuse à compter le nombre de mégots qu'il y a et je me dis, mais c'est pas possible, il y a une quantité énorme, j'en compte 200 en quelques mètres. Je me dis, mais c'est pas croyable. Donc, je rentre à mon travail, je commence à faire plein de recherches. Et là, je me rends compte que le mégot, c'est le premier déchet dans les océans, le premier déchet plastique. Et là, ça me met un peu une claque parce que je me suis dit, j'ai fait 2 ans de tour du monde sur les déchets plastiques et je savais même pas que le mégot, c'était en plastique, qu'il y avait 2000 polluants dedans et que c'était le premier déchet plastique dans les océans, quoi. Je me dis, mais c'est dingue. Et donc de là, je me dis, bah voilà, c'est ce sujet dont je veux parler. Et j'habite à Paris, donc quoi de mieux que de retracer en fait le parcours symbolique que fait ce mégot de Paris jusqu'à la mer, mais à la nage. Parce que là, ça va vraiment interpeller les gens en disant, bah en fait, tu vas voir que ton mégot que tu jettes place de Clichy, il a des chances de finir dans la Seine. Et s'il finit dans la Seine, bah, il a des chances de finir dans la mer. Tout en se libérant de ces 2000 substances chimiques qui vont du coup bah, carrément inhiber toute la vie, en fait, la vie des arbres, la vie des poissons, la vie tout l'écosystème qu'on a tendance à oublier quand on habite en ville. Et donc, je monte ce projet un peu fou, j'en parle à mes premiers, on va dire, collègues de nage, mes co-nageurs, à savoir ma copine et mon petit frère qui me disent, mais c'est une super idée. À trois, on n'est pas sûr d'arriver à bout des 380 km à la nage, donc on va rajouter une quatrième personne. On demande à la cousine de Chloé, Louise Pasquet, de rejoindre l'aventure. Et donc, on crée l'association qui, à l'époque, s'appelait Zéro Mégot, qui maintenant s'appelle Swim for Change, avec l'objectif, en fait, de sensibiliser les Français à jeter leur mégot au bon endroit, donc dans la poubelle ou dans le cendrier de poche ou dans un cendrier dédié qui sera derrière. Utilisé pour le recyclage. Et on prépare ce défi avec en tête, avant de se lancer à la nage pour 380 km, l'idée de faire un projet collectif qui va pouvoir, à Paris, ramener des gens, les impliquer, les sensibiliser. Et donc, on organise le record du monde de collecte de mégots le 31 mai 2021. Et donc, on a la bonne surprise à cette date de voir 1000 personnes arriver de tout Paris entre 10h et 13h pour collecter des mégots. Donc là, c'est une journée assez fantastique que je garde en mémoire parce qu'il faut imaginer tous les sites les plus touristiques, normalement là où il y a le plus de monde, là où il y a le plus de mégots. Et à chaque fois, il y a une centaine de personnes qui sont là pour collecter des mégots. Les ramener, des gens qui ont décidé de se lever un samedi matin, alors que c'était en période de Covid. J'étais vraiment plein de joie, tu vois, de voir toute cette énergie et en même temps assez triste de voir tous ces mégots, parce qu'on a collecté 855 000 mégots. Donc 855 000 mégots, c'est la pollution de l'équivalent de 170 piscines olympiques. Parce qu'on dit qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. Et quand on voit ces deux jauges géantes qui font presque 2 mètres avec ces centaines de milliers de mégots, c'est déjà à l'odeur, c'est répugnant. À l'image, c'est choquant. Et heureusement qu'il y a tous ces gens et qu'il y a en fait cette énergie positive de se dire, mais en fait, on voit les mégots tous les jours et on en a marre, en fait. Donc là, on se lève un matin pour les collecter. J'ai trouvé que c'était en tout cas, un très beau message qui a été pas mal relayé. Et c'est tout le but aussi d'une opération comme ça, parce qu'en fait, une collecte aussi impressionnante que ça puisse paraître, c'est très peu par rapport à l'ensemble de l'impact. Et puis peut-être qu'une semaine après, il y a tout autant de mégots. Donc le but, c'était vraiment de créer une image chez les gens qui va les choquer en leur disant, regardez, c'est un vrai problème. Et la solution est très simple, elle prend même pas quelques secondes. Donc après. La campagne a été beaucoup relayée sur les médias. On a fait, je sais pas, le JT d'M6, le JT de BFM. Et c'était vraiment ça l'objectif, parce que l'objectif, c'est d'aller toucher énormément de monde et de faire passer ce message. Et donc, juste après cette collecte, le 31 mai, c'est là qu'on s'est glissé dans l'eau, Chloé la première, et ensuite tous les quatre en relais, en fait, jusqu'à Deauville. En fait, donc j'ai un nouveau projet que je suis en train de lancer. Qui fait pas mal écho à ce que vous faites au sein de la Water Family et que je trouve assez fantastique, c'est votre capacité à embarquer les jeunes en fait à travers le jeu, à travers la pédagogie, à travers des illustrations, à travers tout un univers que je trouve que vous maîtrisez très bien. Et moi de mon côté, en fait, je me suis posé cette question un jour de comment est-ce qu'on arrive à embarquer des athlètes J'étais donc dans un événement des étoiles du sport avec une quarantaine d'athlètes de haut niveau. Et le matin, j'organisais un réveil musculaire et juste après, une conférence sur le climat. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que tu fais un atelier, mais il y a une espèce de... Dès que tu fais un réveil musculaire, j'avais fait des petits exercices de compétition, ils sont à fond, quoi. Et la conférence, on n'a jamais le même niveau d'attention qu'on peut avoir quand on les met en mouvement. Et donc, j'ai réfléchi à un format qui fusionnerait en gros une fresque du climat avec un épisode de Koh-Lanta et un cours de Zumba. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle The Climate Workout avec l'objectif d'utiliser en fait le sport et le jeu pour sensibiliser aux enjeux du climat. Et donc, c'est une personne, un facilitateur, une facilitatrice qui peut animer pendant une heure et demie cette sensibilisation avec des jeunes, des entreprises, enfin, plein de secteurs différents. Et mon but, c'est en s'inspirant un petit peu de ce que fait la fresque du climat, de diffuser le modèle un peu partout en France et toujours en gardant donc le statut d'association. Et je trouve que c'est un beau projet, moi, qui me permet d'embarquer sans culpabiliser plein de gens et de façon ludique. Donc c'est un projet qui m'excite beaucoup, tu vois, qui sort un peu de l'éco-aventure en tant que telle, mais qui garde l'idée d'apprendre en mouvement et que je trouve assez canon. C'est aussi une partie de là où j'ai envie de mettre mon énergie. Alors, est-ce que j'ai des réflexions que je me fais quand je reviens d'une aventure, d'une éco-aventure? C'est très difficile à répondre comme question parce que dans un projet qui dure un an en vélo, ce ne sera pas la même chose qu'un projet qui dure 10 jours sur le lac Titicaca ou qu'un projet qui dure une semaine sur la Seine. Et en même temps, il y a à chaque fois ce voyage intérieur qui est la première chose que je retiens. C'est-à-dire que ça peut être une éco-aventure. En fait, le voyage le plus important, c'est ce que je vis dans mes émotions, c'est mon voyage intérieur et il est d'autant plus fort que du coup j'ai une connexion importante et assez unique avec la nature à ce moment-là. Donc moi c'est ça que je retiens en fait, c'est cette espèce de capacité à dialoguer avec un monde qui m'est dans mon quotidien assez étranger, celui de vivre un peu dans la nature. Et en même temps, il y a un autre sentiment très très fort, c'est celui du collectif, parce que dans aucune de mes aventures, je l'ai fait tout seul, et je l'ai fait tout le temps accompagné, donc la descente de la Seine avec trois autres nageurs fantastiques, la traversée du lac Titicaca avec deux nageurs fantastiques, et donc la sensation de partager l'aventure que tu vis, mais aussi la partager plus largement avec ces 1000 bénévoles qui ont collecté des mégots et qui sont mobilisés et qui étaient à fond sur une journée. Il y a vraiment cette énergie qui, moi, me donne énormément d'espoir, parce que je me dis que c'est avec une énergie positive dans l'action qu'on arrivera je veux dire, à débunker, à débloquer la plupart de nos futures problématiques et nos problématiques qui arrivent déjà aujourd'hui. Alors, aux nouvelles générations, si je pouvais donner un conseil, je ne sais pas si je donnerais un conseil, parce que chaque expérience, chaque vie est vraiment unique. Je sais juste qu'en fait, le socle le plus important, c'est peut-être d'avoir confiance en soi, en sa capacité à faire les choses. Et pour moi, c'est venu très progressivement à travers mes aventures, mais c'est ce qui, à chaque fois, m'a donné envie de m'engager toujours au service de ce qui était le plus important pour moi, à savoir le sens. Et donc, je pense que ça, ce serait pour moi un socle important. Et après, l'autre compétence qui me paraît assez clé, c'est d'essayer de développer son empathie. Donc, j'aurais adoré, jeune, pouvoir déjà connaître un peu les secrets de la communication non violente, qu'on appelle la CNV. Donc, c'est comment essayer de mieux comprendre l'autre, comment mieux comprendre les différents types de personnalités. Et en fait, quand tu comprends ça jeune, tu comprends un peu la pluralité du monde, la pluralité des opinions aussi. Et je pense que ça m'aurait beaucoup ouvert, comme ça m'ouvre en ce moment. Et voilà, j'espère que tout le monde, on pourrait apprendre ça en fait dès tout jeune.
Merci d'avoir écouté ce podcast produit par la Water Family, association à l'écologie depuis 2008. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et à en parler. À bientôt!